à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Prendre soin de son ventre, prévenir certains troubles, c'est notre thème ce matin avec des pistes pour chouchouter votre système digestif, éviter certaines pathologies comme le reflux gastro-œsophagien, les ballonnements après un repas copieux, éviter certains maux comme la maladie du foie gras. Et puis nous verrons comment expliquer les colopathies fonctionnelles, la constipation, encore l'accélération du transit intestinal, comment éviter qu'un trouble digestif ne s'aggrave et comment se soigner le plus naturellement possible. Nos experts attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter pour vous aider à faire la paix avec votre ventre. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Notre médecin et romancier très en colère après un acte ignoble.
Oui, je vais partager la détresse de Marion, une collègue infirmière libérale dont le cabinet médical a été vandalisé par des anti-vax.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi. Grand bien vous fasse.
Fouille !
Qu'est-ce qu'il y a ?
J'ai trop mangé.
Hein ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Oui.
Hein ? Où c'est que tu as mal ?
Oui.
Où ?
Au ventre.
Au ventre. De haut en bas ou
oui.
De bas en haut ?
De droite à gauche.
Ah, mais plutôt à droite
oui.
ou plutôt à gauche ?
À gauche.
À gauche.
Non, à droite.
Oui. Oh, à droite ou à gauche, c'est pas plus grave.
Extrait du film Le Grand Chef d'Henri Verneuil en 1959. Bonjour professeur Gabriel Permuter.
Bonjour Ali.
Chef du service d'hépato-gastro-entérologie et nutrition de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Chercheur à l'INSERM. Dernier ouvrage paru en poche, De l'intestin au cerveau chez Pocket. Bonjour docteur Philippe Godeberge.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et coloproctologue. Vous avez notamment publié chez Hachette Qu'est-ce que tu as dans le ventre ? Bonjour Caroline Gaillet.
Bonjour Ali.
Vous êtes diététicienne, nutritionniste, phytothérapeute, vous venez d'ouvrir une herboristerie à Aulnay-sous-Bois et vous avez récemment publié Ma santé au naturel chez le Duc. Alors j'aimerais qu'on entre aller tout de suite dans le vif du sujet avec Eliane qui souffre de RGO depuis une vingtaine d'années. Cela gâche ma vie et surtout mes nuits. Le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien, les fameuses remontées acides. Docteur Philippe Godeberge, ces brûlures d'estomac concerneraient environ un Français sur trois, c'est ça ?
Quand on demande aux Français si dans le mois qui précède, ils ont eu des symptômes de type reflux, effectivement, ça concerne entre un Français sur trois et un Français sur cinq. Donc c'est un phénomène extrêmement courant, mais il est en général suffisamment intermittent pour que la dégradation de qualité de vie soit, disons, mineure ou insignifiante. Mais il y a effectivement des patients qui l'ont de façon trop fréquente, trop régulière, trop importante, tout particulièrement puisque c'est le principe d'une bouteille qui s'incline et qui remplit son goulot lorsqu'il se couche, et ça peut entraîner des troubles du sommeil et un inconfort, effectivement une dégradation de qualité de vie très significative et importante puisque bon, parfois un peu considéré comme un symptôme mineur, on a comparé la dégradation de qualité de vie liée au reflux par rapport à des formes plus sévères de maladies, comme par exemple l'insuffisance cardiaque, et la dégradation de qualité de vie est pratiquement similaire, ce qui témoigne bien de l'impact de ce symptôme a priori simple.
Quels sont les principaux symptômes qui peuvent alerter ?
Alors, il y a les symptômes qui sont propres au diagnostic et les symptômes qui doivent alerter, ce qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que vous avez la remontée d'une brûlure qui part du creux de l'estomac, ce qu'on appelle vulgairement le creux de l'estomac, qui remonte dans le thorax, qui peut même finir par une espèce d'amertume vinaigre un peu au fond de la gorge. Il peut y avoir des remontées alimentaires qui sont des régurgitations acides et donc qui sont très différents des vomissements où il y a un effort avec une contraction du diaphragme. Et ce sont des symptômes qui ont un caractère positionnel, donc la sieste par exemple, et puis qui vont être atténués si on boit ou si on prend quelque chose de moins acide qui lutte contre ça, par exemple le classique verre de lait. Les signes de gravité sont effectivement, le principal signe, c'est une difficulté à avaler. C'est-à-dire lorsque la déglutition devient douloureuse, qu'on est obligé de boire pour faire descendre, qu'elle est douloureuse, ça c'est un symptôme d'alerte car c'est une complication potentielle grave, heureusement très rare, des reflux gastro-œsophagiens liés à une irritation chronique de l'œsophage.
Quel est ce liquide acide ?
C'est le contenu de l'estomac, en fait. Et donc, la régurgitation, c'est le liquide plus ce qu'on a ingurgité, alors que l'acidité tient à la sécrétion acide produite par l'estomac, qui a un effet très important de dégradation même des protéines. C'est pour ça que médicalement parlant, on peut pas tellement lutter contre cette remontée, à part des règles hygiéno-diététiques et une prise en charge, quelle que soit, et en général des règles hygiéno-diététiques que les gens suivent avec une motivation variable, et des médicaments qui tentent à baisser cette concentration en acide de ce qui remonte. Donc on le sent moins et ça brûle moins.
Un peu d'anatomie peut-être, docteur Godeberge. Entre l'estomac et l'œsophage, on retrouve un muscle qui joue le rôle d'une valve anti-retour. C'est le sphincter inférieur de l'œsophage, c'est ça ?
Exact. C'est-à-dire que l'œsophage est un tuyau qui va du pharynx, le fond de la gorge, grosso modo, qui va jusque dans l'abdomen, qui traverse donc le thorax et qui s'abouche dans la poche, qui est l'estomac, qui est un réservoir qui va délivrer petit à petit l'alimentation. Et entre les deux, il y a un anneau musculaire qui est sous l'influence de très nombreux facteurs, la masse graisseuse, la cigarette, le stress, l'alcool, et qui dont le rôle est d'empêcher cette remontée du liquide de l'estomac vers l'œsophage.
Baptiste Beaulieu.
Oui, moi, ce que je constate souvent, c'est des patients qui viennent et qui confessent au cours de la consultation une toux en position déclive. Ils me disent, dès que je m'allonge, je commence à tousser et j'ai peur d'avoir, en ce moment, évidemment, c'est le Covid, alors que la première cause de toux en position déclive, comme ça, c'est le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien.
C'est une bonne remarque, mais elle amène quelques commentaires, parce que la toux est un symptôme extraordinairement fréquent. Lorsqu'elle est positionnelle et qu'elle s'accompagne de symptômes de reflux, on peut faire le lien, effectivement. Mais il y a beaucoup de toux qui, comme beaucoup de symptômes, sont de nature un peu psychogène. On voit des gens qui se mettent à tousser quand ils sont stressés, ou quand on les a en consultation en face de nous, ils toussent pas, et puis on leur demande à propos à quel moment vous toussez, et là ils se mettent tout d'un coup à tousser, parce que c'est un phénomène de tension, et donc il y a un diagnostic un peu raccourci qui consiste à rapporter toutes les toux à un reflux. Dit le patient qui a les doigts jaunes parce qu'il vient de fumer. Donc il faut rester un tout petit peu...
Est-ce que le stress peut jouer un rôle dans le reflux gastro-œsophagien ?
Tout à fait. Alors, on a toujours l'impression que les médecins mettent le stress comme une espèce de mantra à toutes les sauces, quels que soient les symptômes. Sauf que dans le cas du reflux, ça a été validé. On a pris... Alors, il y a eu des publications qui ont été faites avec des étudiants en médecine volontaire, où on étudiait avec l'enregistrement de l'acide dans l'œsophage les phénomènes de stress. Alors ils étaient stressés par un son, un bruit, un flash, et on voyait de façon synchrone l'apparition d'un reflux. Donc on peut imaginer qu'un stress de ce type-là, dans la vie de tous les jours, alors peut-être passer à Grand Bien Vous Fasse ou avoir une conduite parisienne, ça déclenche effectivement des phénomènes de reflux et ça joue un rôle. Et ça, on pourra en reparler après sur la composante fonctionnelle d'un certain nombre de troubles.
Baptiste ?
Oui, le tabac aussi joue un rôle. Il me semble aussi les aliments riches en nitrates, comme les conserves, le stress. C'est des symptômes qu'on doit rechercher chez les patients, quoi.
Tout ce qui va ralentir la vidange de l'estomac, le gras, le sucre, la cigarette, l'alcool, ça favorise.
Professeur Gabriel Permuter, la qualité de son assiette et le moment où l'on mange, cela joue sur le reflux. Si je mange ce soir une entrecôte frite avec un verre de vin rouge, du fromage, une part de tarte aux pommes, est-ce que j'ai un risque accru de reflux et moins de risque si je mange du quinoa et des courgettes
Alors, je voudrais... ajouter une chose avant de vous répondre, où la réponse est un peu téléphonée, monsieur Rébéi. Il existe un reflux normal, physiologique, de toute façon, ça arrive que la valve, le sphincter dont vous avez parlé, de temps en temps se relâche un peu, donc ça peut être normal, et certaines personnes ont une hypersensibilité à un reflux normal et ressentent des symptômes de reflux en fonction de la sensibilité de la personne, sans qu'il y ait un reflux maladie, ce reflux normal et physiologique peut les gêner. Ensuite, il est évident qu'en fonction de ce que vous allez manger, si vous prenez des aliments par exemple avec des bulles, enfin ça dépend des aliments, mais certains, si vous prenez des aliments qui sont gras, qui vont ralentir la vidange de l'estomac, si vous avez une alimentation qui est quantitativement trop importante, vous allez avoir donc beaucoup une augmentation du volume du bol alimentaire. Donc, de façon tout à fait naturelle, on est dans un tuyau, donc le tuyau est trop plein et vous avez un reflux qui soit est normal et un peu augmenté, vous le ressentez trop, soit un reflux pathologique.
Caroline Gaillet.
Oui, je vais dans ce sens-là. J'ajouterais juste le café aussi, qui a tendance à majorer les reflux.
Comment aider Iliane? Quels sont d'abord les médicaments qui sont préconisés, prescrits dans les cas de reflux gastro-œsophagien? Je pense évidemment aux pansements gastriques.
Alors, il y a une hiérarchie dans la prise en charge médicamenteuse, et c'est vrai que là encore, le raccourci de reflux gastro-œsophagien, médicament antisécrétoire, c'est-à-dire médicament qui diminue l'acidité et non pas qui la tamponne comme les pansements, est parfois un peu rapidement fait, avec le danger qu'une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage, comme ils ont censé être assez simples ou sans effet secondaire, ce qui est globalement plutôt vrai, on va le renouveler sans arrêt. Alors qu'en fait, on peut atténuer
les symptômes avec une prise en charge. Alors il y a les pansements gastriques et les antisécréteurs d'acide que l'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est
exact.
Ça ?
Oui, les inhibiteurs de la pompe à protons, ce sont ceux qui empêchent le passage de protons, c'est-à-dire d'acide, l'acide chlorhydrique, pour faire simple, dans la fabrication de ça dans l'estomac. Les anti-acides, eux, n'empêchent pas cette sécrétion-là, mais vont se mélanger à l'alimentation et baisser cette acidité, un peu certains, on va dire, comme l'huile sur la mer, c'est-à-dire que ça fait à ce moment-là un pouvoir couvrant.
Quels sont les conseils de base ?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que assez souvent, les patients négligent les règles hygiéno-diététiques et vont passer d'emblée à des médicaments qui ont l'avantage de la simplicité, mais qui sont tellement efficaces que du coup, finalement, on va pas chercher à maigrir, alors qu'il faudrait maigrir, on va pas chercher à manger doucement, de façon, comme le disait le professeur Perlmutter, de manger une alimentation adapté en faisant des efforts. Et ça, c'est cette dimension du temps qui est parfois un peu plus difficile à mettre en route, alors que c'est ce qui, à terme, est plus efficace.
Un conseil de bon sens, ne pas s'allonger de suite après un repas. Et puis, ça peut paraître un peu bébête, mais mettre une cale sous les pieds de la tête de lit.
Tout à fait. Alors, après, faut le mettre en route, c'est-à-dire que quand on dort à deux, parfois madame veut avoir les pieds un peu en l'air à cause d'une insuffisance veineuse et monsieur a un reflux parce qu'il est un peu rondouillard.
Ou inversement.
Oui, l'inverse est vrai. Enfin maintenant, il faut dire l'inverse. Enfin bon, en tout cas, le conjoint, peu importe. Moi, c'est vrai que je suis très normatif, excusez-moi. Mais c'est vrai que plutôt que de dormir avec 36 oreillers qui cassent le cou et qui fait mal au dos, il vaut mieux dormir sur un plan incliné, un peu à plat. Et ça a été démontré. On a 20% de guérison d'œsophagite en plus. Donc c'est pas un gris-gris médical, c'est une vraie réalité.
Et nous accueillons une auditrice, Isabelle. Bienvenue Isabelle.
Bonjour.
Alors, vous souffrez de reflux, c'est ça ?
Alors j'ai souffert, je ne souffre plus. Et j'ai réussi à faire passer ces crises qui étaient extrêmement pénibles la nuit, notamment, qui m'empêchaient de dormir, vous en parliez tout à l'heure. Grâce au conseil d'un kiné qui m'a simplement expliqué qu'il fallait que j'arrête d'être en apnée, qu'il fallait que je respire en journée de façon consciente, et puis après la nuit je faisais des exercices de respiration avec une accentuation de l'expiration, et ça m'a réellement fait passer ces crises. C'est terminé, ça fait des années que j'en ai plus.
Professeur Perlmutter.
Oui, alors c'est très bien que vous n'en ayez plus. Les mécanismes auxquels vous faites référence, effectivement, c'est des mécanismes qui vont diminuer, en particulier quand on respire, le niveau d'anxiété, le niveau de stress. Et si votre reflux est lié au moins en partie à une hypersensibilité liée à votre stress, il est évident qu'avec ce type d'exercice, cette part peut-être qui vous fait déborder quant à votre reflux va vous permettre d'avoir des nuits plus confortables et que le reflux que vous avez ne vous gêne plus.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé. Caroline Gaillet, quelles sont les plantes qui peuvent calmer un reflux gastro-œsophagien?
Alors dans les plantes en tisane, il y en a trois qu'on aime bien associer ensemble. On a la racine de réglisse, la racine de guimauve et la camomille matricaire. Camomille matricaire va avoir une action un petit peu sur la détente nerveuse et donc jouer sur cet impact du stress. Et la racine de guimauve elle a des mucilages en fait qui vont avoir cet effet à tapisser en fait la muqueuse. Et la réglisse, on dit qu'elle module les pompes à protons et elle a aussi cette petite capacité mucilagineuse, donc ça va protéger. Et ce sont toutes les trois des plantes qui améliorent la vidange gastrique. Quand les gens sont pas hyper branchés sur la tisane, on a une poudre, l'algue lithotame, qui est alcalinisante et qui va permettre d'aider à calmer un petit peu ses reflux. Et enfin, l'option goutte, c'est les gouttes de bourgeon de figuier qui vont être très bien pour les gens qui cumulent beaucoup de stress et d'anxiété et en même temps du reflux.
Et attention à la réglisse si l'on souffre d'hypertension artérielle, bien évidemment. Professeur Perlmutter, sur les aides phytothérapeutiques naturelles, quel est votre point de vue?
Alors, sur la réglisse, effectivement, la réglisse diminue, un peu comme les inhibiteurs de la pompe à protons à dose, mais de façon beaucoup moins importante, la sécrétion acide. Et comme vous l'avez dit, Ali, la réglisse, quand on est un peu en surpoids ou quand on a une pression artérielle limite, faut faire attention, il y a dedans de l'acide glycyrrhizinique et il faut pas la prendre si on a une pression artérielle limite. La guimauve, c'est bien pour les manifestations ORL du reflux, effectivement.
Docteur Godeberge.
Alors, je ne sais pas. C'est-à-dire que la phytothérapie est un outil parmi d'autres, avec une validation scientifique, je vais mettre un peu d'ambiance, hein, avec une validation scientifique qui est absente. Et donc c'est vrai qu'on a un peu tendance à traiter par l'épreuve. Ça doit être pondéré par une chose, et c'est on va presque pouvoir continuer d'ailleurs avec les troubles fonctionnels intestinaux comme la colopathie fonctionnelle. C'est que là encore, on a l'impression que les médecins répètent toujours, il y a les médicaments, la relaxation, l'activité physique et le poids. Et pour un certain nombre de symptômes, dont le reflux gastro-œsophagien. Et lorsque les gens font la démarche d'aller dans une herboristerie, ça veut dire qu'ils sont déjà dans une démarche vertueuse, et qu'à ce moment-là, ils vont s'occuper, ils vont essayer de trouver une solution non conventionnelle, et je crois que la médecine traditionnelle allopathique, qui est celle que professeur Perlmutter et moi on exerce, ne doit pas se priver effectivement de cet outil parmi d'autres, avec une petite réserve quand même, c'est que le diagnostic doit être établi, y compris en signe de gravité au préalable.
Alors moi, je vais dans votre sens sur l'histoire moi, je prône la santé intégrative. Donc effectivement, le diagnostic, il ne peut être que médical. Et effectivement, il faut aller voir des médecins. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on a beaucoup de gens qui vont prendre des IPP, vont prendre... et en fait, s'estiment être dépendants, en fait, et n'ont pas de solution qui soit pérenne. Donc effectivement, nous, on va remettre un petit peu de l'insistance sur les règles hygiéno-diététiques. Et par contre, là où je n'étais pas d'accord, c'est sur la validation scientifique des plantes. C'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'études scientifiques, et sur l'humain, pas sur la souris ou en in vitro, qui montrent des effets de ces plantes-là. Et je rebondis aussi sur l'histoire de la réglisse et de l'hypertension. Quand je vous ai cité les trois, la camomille matricaire, la guimauve et la réglisse, c'est qu'en fait, la réglisse prise de façon isolée, certes, elle a effectivement cette action-là avec l'acide glycyrrhizique, mais quand vous associez les trois ensemble, la contre-indication tombe. Et c'est ce qui permet de le donner à beaucoup plus de gens sans tenir compte de cette précaution d'emploi. Et on obtient de très bons résultats.
Alors j'aimerais qu'on évoque un phénomène que nous sommes nombreux à connaître le week-end, quand les repas sont un peu trop copieux, plus copieux qu'en semaine. C'est lourde digestion quand l'estomac est trop plein. Comment expliquer cette sensation de pesanteur après le repas d'un point de vue anatomique, docteur Godeberge? Qu'est-ce qui se passe? On peut ressentir évidemment des ballonnements, des suées. Qu'est-ce qui se passe quand on mange trop?
Oui, c'est un peu ça en fait. C'est que la charge calorique, c'est-à-dire la concentration d'énergie, entre guillemets, qui est délivrée par ce repas, la nature de ce que l'on mange, voire parfois le simple volume, aboutit à, pour faire simple, un ralentissement de la vidange de l'estomac. C'est d'ailleurs un système assez malin. Si vous mangez quelque chose de gras, le gras est difficile à absorber et à dégrader par l'intestin grêle, le petit intestin qui est en aval. Et donc, l'estomac va réguler la délivrance en le faisant petit à petit. C'est pareil aussi pour le sucre. Si vous prenez des profiteroles au chocolat, qui sont grasses et sucrées, eh bien, il va aussi ralentir, car si le sucre est déversé directement dans l'intestin grêle, on se retrouve avec un pic de glycémie extrêmement important, avec les dysrégulations que ça peut entraîner au niveau de l'insuline. Donc, ce système fait qu'effectivement, il y a une charge qui va rester longtemps dans l'estomac, un temps de vidange gastrique standard pour un repas bien mâché, mangé doucement, c'est de l'ordre de 2 heures maximum. Là, on peut atteindre 4 heures, 5 heures.
Bien mâché, voilà quelque chose de très important, professeur Perlmutter. Pourquoi est-il impératif de bien mastiquer, de bien mâcher? Pourquoi la mastication peut prévenir les ballonnements, les digestions difficiles? Expliquez-nous un petit peu.
Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, quant à l'acide glycyrrhizinique, ça mime l'effet des surrénales, et c'est pas parce qu'on associe d'autres médicaments ou d'autres plantes avec que ça ne donne pas d'hypertension artérielle. Quant à la mastication, vous allez faciliter le travail de l'estomac, et donc les aliments resteront moins longtemps dans l'estomac, l'acidité agira plus rapidement, et donc vous allez du coup diminuer le sentiment de reflux gastro-œsophagien.
Parce qu'on oublie trop souvent, docteur Godeberge, que la digestion débute dans la bouche.
Tout à fait. La dégradation des aliments, elle est mécanique, avec l'écrasement, la fragmentation. Elle est déjà chimique, puisqu'elle s'imprègne de salive, avec des amylases salivaires, qui sont des substances qui favorisent la dégradation de l'amidon. Et donc après, le travail de l'estomac, c'est pas l'estomac qui, lui, doit brasser tout ça, et va le faire, le travail. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, on énonce un certain nombre de règles hygiéno-diététiques, et le renforcement que peut nous apporter la phytothérapie, malgré les restrictions que, de façon conjointe, on peut apporter, c'est que, très souvent, de la part des patients, il y a une espèce de volonté de bien faire au départ, qui est tout à fait louable, mais enfin, je sais pas pour vous, mais moi, depuis le CM2, on me dit peut mieux faire. Donc, c'est pareil, on leur dit, non, vous êtes dans un temps qui est long. Donc, si vous voulez changer vos habitudes, prenez-en une, vous la changez, vous en additionnez une autre, mais n'essayez pas de tout faire, tout bien, tout du premier coup. Vous n'y arriverez pas, et au bout du compte, au bout de quelques semaines, ils disent, tant pis, je laisse tomber. Alors que l'association de différentes approches, y compris phytothérapie, peut aider.
Il faut réhabiliter la marche digestive après le déjeuner ou après le repas du soir, professeur Permuter.
Il faut réhabiliter tout ce qui peut aider les patients, que ce soit une des règles diététiques, que ce soit de la médecine fondée pour l'épreuve ou de la médecine de la phytothérapie ou des médecines type hypnose. Tout ce qui peut aider le patient, même si le niveau de preuve est faible, il faut le faire.
Quand on a un peu trop mangé, quelles sont les plantes adéquates, Caroline Gaillet, en cas de digestion un peu difficile après un repas
Alors, on va avoir deux types de plantes.
Lourd.
Les plantes amères sont bien parce que les plantes amères sont dites apéritives. Elles vont augmenter la production de tous les sucs digestifs et donc elles vont aider. La plante amère par excellence, c'est la gentiane, la racine de gentiane, qu'on utilise plutôt sous la forme de teinture mère. Et on s'en met 30 gouttes dans un petit fond d'eau, l'équivalent de deux gorgées d'eau, parce que c'est pas non plus bon de trop boire d'eau parce qu'on redilue tout le contenu stomacal. Et ça, en fin de repas, ça peut aider. Et sinon, ça peut être les plantes antispasmodiques. Je pense à la mélisse, qui est une action de détente digestive et qui va soulager un petit peu les spasmes.
La verveine aussi ?
La verveine aussi, de façon un petit peu moins forte que la mélisse, mais la verveine aussi.
Alors, comment soulager naturellement les ballonnements et les flatulences, les éructations qui accompagnent ces digestions lourdes, docteur Godeberge ? Est-ce qu'on va à la pharmacie, on se jette sur certains types de médicaments ?
Il faut avoir conscience quand même tous ces symptômes-là n'ont jamais tué personne. Ouais. Donc, il y a un moment, il faut prendre un peu de recul. Ouais. En fait, c'est un peu un melting pot dans lequel il y a des symptômes qui vont avoir des mécanismes différents. Par exemple, le ballonnement ou les flatulences vécues comme excessives vont dépendre aussi d'un transit qui soit un peu plus harmonieux. Et donc, les aliments qu'on va pouvoir ingérer à l'occasion d'un repas un peu festif sont souvent parfois assez pauvres spontanément en fibres. Et donc, de ce fait, ça va entraîner des fermentations plus importantes.
Envoyez la réclame!
Pour ne jamais, jamais manquer de ressort, à table, buffet, Vichy, Saint-Jean.
Avec un toit, on digère
sans histoire
et sans manière.
Elle veut mieux passer
les petits plats corsés.
Dans de Badois, c'est la gaieté.
Si vous voulez faire
un délicieux repas,
demandez-nous l'eau de Badois.
L'eau de Badois? Une bien agréable façon d'aider la digestion.
Oui. Jean-Marc, c'est ton estomac, là, pareil. J'en veux plus. T'as trop mangé.
Pour digérer, buvez de l'eau minérale. Buvez Saint-Yor, naturellement riche en minéraux et en goût.
Apollinaris, l'eau qui fait digérer des briques.
Alors, notre programmatrice Camille Poux-Jadaguier se demandait au bureau si certaines eaux minérales gazeuses aidaient vraiment à mieux digérer après un repas copieux, professeur Permuter.
Alors, effectivement, j'aime bien prescrire à mes patients, plutôt que leur mettre un antiacide pour tamponner l'acidité, leur donner un peu de Vichy Célestin, qui est une eau avec un pH élevé, donc très alcaline pour tamponner l'acidité de l'estomac. Mais il faut bien savoir qu'à partir du moment où on mange, comme l'estomac est extrêmement acide, avec un pH même inférieur à 1, Dès que vous mettez le moindre aliment à l'intérieur, vous allez tamponner de toute façon l'acidité de l'estomac. Et donc, c'est pas forcément après un repas qu'il faut prendre cette eau à pH élevé.
Et dans le même sens, Anita nous demande si le bicarbonate de soude dans du jus de citron est recommandé après un repas un peu trop lourd.
Alors effectivement, quand vous mettez du bicarbonate de soude, vous allez aussi tamponner l'acidité de l'estomac, vous allez faire remonter le pH et puis ça peut vous aider.
Et Nora nous demande si les gélules de charbon activées sont recommandées en cas de ballonnement.
Alors, le charbon activé va effectivement capter les gaz qui sont produits lors des fermentations digestives. Après, quand on prend le charbon, les gaz sont déjà produits, donc on est dans le traitement curatif, c'est mieux de les prévenir. Et puis, un des effets indésirables du charbon, c'est que ça entraîne une constipation et les personnes qui ont des gaz peuvent avoir du méthane qui est produit, qui constipe déjà, donc ça peut être... Voilà, je dirais que c'est adapté au cas par cas, ça peut aider, ça dépend.
Allez, dans quelques instants, on s'intéresse à la colopathie fonctionnelle. Et en attendant, je vous propose d'écouter Simon & Garfunkel, qui interprète Cécilia. Simon and Garfunkel, interprété Cécilia.
Oh, il a mauvaise mine, ce homme-là. Asseyez-vous.
Grand bien vous fasse.
Montrez-moi votre langue. Langue blanche, œil jaune, nez rouge, le foie. C'est le foie. Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais.
Sur France Inter.
11h25, comment prévenir les maux de ventre et comment les traiter le plus naturellement possible? Élément de réponse avec le professeur Gabriel Permuter, le docteur Philippe Godeberge, avec la diététicienne phytothérapeute Caroline Gaillet, standard ouvert au 01 45 24 7000. Professeur Gabriel Permuter, Daniel nous demande comment savoir si son foie est malade. Il nous dit qu'en ce moment, il a le teint jaune et le blanc des yeux jaunâtre. Est-ce un signe que son foie est malade?
Alors, ça peut être un signe que le foie est malade, c'est un peu plus compliqué que ça, mais à partir du moment où on a le teint jaune ou les yeux jaunes, on va voir son médecin, on fait une prise de sang, on regarde le bilan du foie, en particulier si on est jaune, la bilirubine, les enzymes du foie, les transaminases, la gamma GT. S'il y a des anomalies globales, c'est une maladie du foie. Si c'est juste la bilirubine qui monte, on ne recherche autre chose qu'une maladie du foie, et ça peut ne être rien du tout. Chez 10% des personnes en France, il y a une élévation de la bilirubine pour un syndrome de Gilbert. En premier, c'est ça. Ensuite, s'il y a des anomalies à la prise de sang concernant le foie, on va regarder le foie. C'est plus précis qu'un examen clinique, c'est l'échographie. Et en fonction de ce qu'on trouve, eh bien, on va aller plus loin pour les explorations et on rentre dans la spécialité.
Pouvez-vous nous rappeler les grandes fonctions du foie et pourquoi il est impératif d'en prendre soin ?
Alors, les fonctions du foie, il faut imaginer le foie comme une grande usine qui va fabriquer énormément de choses, des protéines, qui va vous permettre de coaguler, qui va vous permettre de digérer les graisses. Et puis, dans une usine, elle va aussi traiter vos déchets pour rendre des déchets non toxiques pour votre organisme. Donc, c'est un foie et un bon écolo. Et il faut bien imaginer que tout ce que vous mettez dans votre tube digestif, que ce soit des aliments, que ce soit des médicaments, que ce soit de l'alcool, bref, tout ce qui passe dans votre tube digestif va passer par le foie qui va le métaboliser, l'épurer. Et si vous mettez des toxiques, qui va rendre votre foie toxique.
Et Diane nous demande justement quels sont les aliments qui peuvent s'avérer toxiques pour le foie.
Alors l'aliment le plus toxique pour le foie, c'est l'alcool. Mmh. Et même à petite dose, pour peu que vous ayez d'autres facteurs de risque comme un surpoids, l'alcool peut être toxique. J'ai trop de patients qui se retrouvent avec une maladie du foie qui me disent « je n'ai jamais pourtant été ivre ». Mais quand par exemple vous avez un surpoids, si vous prenez un ou deux verres d'alcool tous les jours que Dieu fait, vous pouvez, j'ai pas dit vous allez, j'ai dit vous pouvez rendre votre foie malade. Ensuite, vous avez tous les aliments qui sont trop riches en sucre. Donc le sucre, c'est pas le petit morceau de sucre du café, c'est tous les féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre, jus de fruits, compotes, yaourt aux fruits qui vont après, si vous les prenez en quantité trop importante, vont aller être métabolisées par le foie. Et puis, en ce qui concerne les graisses, je voudrais dire que les graisses, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus toxique pour le foie. Je dirais même que c'est peu toxique. Et quand vous prenez des bonnes graisses qui sont riches en oméga 3, riches en oméga 9, vous allez au contraire protéger votre foie.
Comment détecter, il y a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là, comment détecter une stéatose hépatique non alcoolique, stéatose hépatique non alcoolique que l'on appelle également NASH, ça c'est l'anglicisme, ou maladie du foie gras. Expliquez-nous ce qu'est cette maladie. Alors selon une étude INSERM publiée en 2020, 200 000 personnes dans notre pays présenteraient une NASH sévère, une maladie du foie gras sévère. C'est donc une pathologie du foie en forte expansion dans notre pays. Expliquez-nous un petit peu quels sont les symptômes et qu'est-ce qui doit alerter.
Alors, c'est en fait l'accumulation de graisse au niveau du foie. Donc, comme on l'a dit, il peut y avoir plusieurs graisses. Pour peu que vous ayez des graisses toxiques qui s'accumulent au niveau du foie, vous allez avoir, de façon assez résumée et simple, des formes réactives de l'oxygène qui vont être fabriquées, qui vont détruire l'ADN des cellules du foie, qui vont détruire les membranes des cellules du foie. Donc, votre foie va se détruire un tout petit peu tous les jours.
C'est insidieux.
C'est très insidieux, ça donne pas de signe. Mmh. Et au bout de 10, 15, 20 ans, eh bien, vous allez avoir un risque de cicatrisation anormale du foie. Cette cicatrisation anormale du foie pouvant, dans certains cas, aboutir à une cirrhose, souvent quand il y a un tout petit peu d'alcool associé, ou même à un cancer du foie sans qu'il y ait une cirrhose. Alors, pensez bien que c'est rare, mais ça peut arriver et ça se protège. Et précocement, on peut porter le diagnostic avec une prise de sang, avec une échographie du foie, avec une évaluation de la fibrose de façon non invasive.
Qu'est-ce qui provoque cette maladie du foie gras ?
C'est une maladie...
Docteur Godberge ?
Oui, c'est une maladie, je dirais, de la transition. C'est-à-dire lorsque l'on passe d'une situation un peu de détresse alimentaire à une situation de plénitude alimentaire, ce que nous, on a effectivement dans la grande majorité des pays d'Occident, eh bien, on voit apparaître cette surcharge qui est liée à une surcharge calorique. Il y a des études qui ont été vraiment impressionnantes où on voyait l'incidence de ce foie gras avec la taille des parts de pizza aux États-Unis. Eh bien, plus le temps passe, plus il y a toujours le format XXL, la taille de la part de pizza augmente, et l'incidence dans les États qui y sont soumis a une augmentation de ce foie gras. Donc c'est très diététique.
Rappelez-nous pourquoi on l'appelle maladie du soda.
Alors, maladie du soda parce que, en fait, c'est la maladie du sucre, en fait. On pourrait même dire que c'est le diabète du foie, c'est son très vieux nom, parce que quand vous prenez trop de sucre, encore une fois trop de féculents, vous imaginez votre volatile à foie gras, votre canard ou votre oie, pour entraîner un foie gras chez ce volatile, eh bien vous lui donnez quoi ? Vous lui donnez pas du gras, vous lui donnez du sucre. Le soda, comme les jus de fruits, comme les aliments que j'ai dit, sont des aliments riches en sucre. Le foie ne sait pas stocker du sucre, donc mettez-vous à la place du foie, il ne sait pas stocker le sucre, il sait stocker du gras. Le sucre que vous mangez, il le transforme en graisse qui va se stocker.
Et le traitement de première intention, ce sont les mesures hygiéno-diététiques, c'est ça?
Alors c'est simple et compliqué à la fois. On a vu que c'était très compliqué de changer son mode de vie, et pourtant c'est obligatoire pour pouvoir perdre du poids et par conséquent limiter l'accumulation de graisse au niveau du foie. C'est vraiment le premier traitement, et quand ça marche pas, après les médicaments c'est plus compliqué. Certains médicaments peuvent aider ou peuvent protéger plus ou moins le foie, mais c'est quand même quelque chose de très compliqué.
Caroline Gaillet, je rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute.
Oui, alors effectivement, les règles hygiéno-diététiques, c'est vraiment de limiter drastiquement le sucre. Et après, au niveau des plantes, on a des plantes considérées comme hépatoprotectrices et qui peuvent aider dans ce cas-là. C'est le chardon-marie, le desmodium et le bourgeon de seigle qui montrent des effets assez notables sur l'amélioration des transaminases et de tous les marqueurs hépatiques et qui sont visibles aussi à l'imagerie.
Et associés évidemment à des mesures hygiéno-diététiques.
Oui, docteur
Côte-Berge.
Oui, juste quand on parle des sodas, certains auditeurs peuvent se dire « Ah ben moi je prends... »
Du jus de fruits.
Alors jus de fruits, ça c'est... Gabriel l'a bien dit, c'est aussi apport en sucre. Hein. Mais c'est surtout, je prends un soda « light » entre guillemets, qui contient de l'aspartame. Ça entraîne des phénomènes d'insulino-résistance parce que ça ne coupe pas le goût sucré. Ça apporte de l'aspartame qui fermente dans le côlon et qui donne de la colopathie fonctionnelle avec un inconfort. Donc la solution n'est pas forcément le soda non sucré.
Je voudrais ajouter deux choses sur les plantes. Les plantes, on peut rajouter aussi le radis noir, l'artichaut. Les plantes en dehors de modifications de l'alimentation ne fonctionneront pas. Voilà, c'est vraiment, et de même les médicaments, s'il n'y a pas au moins un petit essai pour modifier l'alimentation, c'est quand même une maladie de l'alimentation.
Je vous propose d'écouter Dora Moutot, atteinte de colopathie fonctionnelle.
Et je me suis dit au début, bon, Dora, t'abuses un peu sur la malbouffe et tout, mange autre chose, mange sainement, ça s'arrangera. Et puis en fait, je mangeais sainement et c'était exactement la même chose, je comprenais pas. Évidemment, j'ai été voir un gastro-entérologue au bout d'un certain moment, mais c'est toujours un peu gênant parce que, quoi qu'on en dise, avouer qu'on ballonne tout le temps, c'est jamais, on n'ose pas trop le dire, on passe par d'autres chemins pour parler de ça. Et puis, une fois que je lui ai dit, on a fait tout un tas d'examens. Et en fait, quand les médecins font le tour de tout ce qui peut être des maladies organiques, ils vous disent, très bien, vous n'avez rien, entre guillemets, vous allez bien, votre santé va bien, mais vous avez ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Et en fait, une colopathie fonctionnelle, il y a 15% de la population française qui est touchée par ce syndrome. Et en fait, c'est un peu un syndrome de vous avez mal au bide, mais on ne sait pas ce que vous avez, et il n'y a rien. En fait, il n'y a rien qu'on peut voir au microscope, c'est-à-dire que votre paroi intestinale, elle est clean, elle est nette. Et pourquoi on donne ce diagnostic ? C'est parce que pendant très très longtemps, on n'a pas pris connaissance du microbiote, ou on en connaissait très très peu.
Dora Moutot dans une vidéo Combini. Alors, la colopathie fonctionnelle, le syndrome de l'intestin irritable, une maladie relativement bénigne, mais au fort retentissement dans la vie quotidienne, docteur Godeberge. Quel est le tableau clinique à grands traits ?
C'est l'association, la colopathie, enfin, on parle de troubles fonctionnels intestinaux ou syndrome de l'intestin irritable, c'est l'association de douleurs abdominales, de phénomènes de ballonnement et de troubles du transit qui vont être soit plutôt des selles multiples ou liquides type diarrhée, ou au contraire une constipation ou une alternance des deux. C'est la combinaison de l'un ou l'autre de ces trois éléments qui permet, lorsqu'ils sont chroniques, de porter le diagnostic, sous réserve effectivement qu'il n'y ait pas de pathologie organique pour l'expliquer.
Pourquoi parle-t-on de colopathie fonctionnelle ?
Fonctionnel, ça, il faut avoir l'humilité quand on est médecin de dire qu'on n'en connaît pas la cause. Donc dès l'instant où on a éliminé une cause organique, que c'est la fonction de l'organe qui est perturbée, on parle de pathologie fonctionnelle. La migraine est une pathologie fonctionnelle au niveau des récepteurs cérébraux. Donc on est dans le même état d'esprit.
Alors c'est une maladie multifactorielle. Quelle est la place de l'anxiété, du stress chronique dans ces colopathies fonctionnelles ?
Elle l'a très bien dit. C'est vrai qu'il y a parfois une petite tendance, on peut mettre une pierre dans le jardin des docteurs, qui consiste à dire, vous n'avez rien, donc portez-vous bien, au revoir, salut. Quoi. Donc c'est très bien, mais ça résout absolument pas le problème de la
maladie. C'est souvent le cas.
Ça arrive, de temps en temps. On peut le regretter, mais c'est un peu, voilà, j'ai fait mon boulot, vous n'avez pas de maladie grave, le reste, je peux pas y faire grand-chose. Or, la colopathie, il faut quand même s'y intéresser un tout petit peu, et la part sensitive est très importante. elle est d'abord dans la perception, c'est-à-dire qu'on a le symptôme et on est au bord de la piscine avec une pina colada, ça va bien se passer, quoi, on va bien le supporter. On est avant une réunion ou une émission de radio, ça va être beaucoup plus difficile à tolérer. Et puis, il y a l'induction des symptômes, parce qu'il y a une sensibilité viscérale, exactement comme ce qui était dit tout à l'heure sur le reflux gastro-œsophagien, cette sensibilité viscérale qui exacerbe la perception du symptôme.
Alors, je suis allé sur le site de la Société Nationale de Gastro-entérologie, et qui nous dit qu'on retrouve un antécédent, ça m'a surpris, un antécédent d'abus sexuels dans 30 à 40% des cas de troubles fonctionnels intestinaux, professeur Permuter.
Oui, alors d'abord, je voudrais revenir sur le témoignage. C'est intéressant de voir quand elle dit « j'avoue que j'ai un ballonnement ». Il faut bien comprendre pour les patients que les médecins ne sont pas là pour les juger. Donc on n'a pas à avouer qu'on a un ballonnement, on n'a pas à avouer qu'on prend de l'alcool. On est là pour aider les patients. C'est extrêmement important. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une hypersensibilité viscérale dans les troubles, dans le syndrome de l'intestin irritable. Cette hypersensibilité viscérale peut être de base ou peut être exacerbée par des traumatismes qui ont eu lieu, ces traumatismes pouvant être effectivement des abus, du harcèlement, un abus sexuel, du harcèlement psychologique, du harcèlement physique. Et on retrouve dans les études effectivement une forte proportion de personnes qui ont eu des abus quand elles étaient jeunes, des gros traumatismes comme par exemple les attentats. Et c'est très important pour pouvoir prendre en charge globalement la personne, de pas simplement se focaliser sur son trouble digestif parce qu'on est sûr qu'on va dans le mur, de pas simplement se focaliser sur son cerveau parce qu'on va aussi dans le mur, mais d'essayer de reconnecter le trouble digestif au
cerveau. On reviendra dans quelques instants sur les traitements proposés contre les colopathies fonctionnelles, mais il est 10h46 et il est temps de retrouver la chronique de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Élie, j'ai reçu le message d'une collègue, Marion, qui est infirmière dans un petit village du sud-ouest de la France, infirmière à domicile. Ce message, je vais vous le lire, et il était accompagné de plusieurs photos montrant son cabinet que de courageux individus ont recouvert dans la nuit de lundi à mardi d'inscriptions comparant les soignants à des dirigeants nazis. Vous pourrez voir ces photos sur le site de France Inter. Marion m'écrit. Bonjour Baptiste, je suis Marion, infirmière à domicile tout près de toi, à Toulouse. Voilà mon cabinet aujourd'hui. Je suis écœurée et dégoûtée. J'en ai assez de subir ça depuis 2 ans. À la première vague, on nous insultait la nuit sur notre répondeur en disant que c'était nous qui tuions les gens en trimballant le virus. Aujourd'hui, on nous traite de nazis. Je soigne depuis 23 ans, Baptiste, sans jugement, sans discrimination. Je soigne tout le monde, quelles que soient leurs origines, leurs idées, leur couleur de peau, leur âge, leur religion. J'aime profondément les gens, mais là je n'en peux plus. Alors s'il te plaît, toi qui as de la visibilité, dis-leur qu'un jour ils n'auront plus de médecins comme toi ou d'infirmières comme moi, parce que je pense aller vendre des carottes sur les marchés ou n'importe quoi d'autre, parce que c'est pas possible, des trucs pareils. Nous on veut juste travailler sans être traité de nazi. Tu peux pas savoir comme ça me fait mal et peur de vivre dans un monde comme ça. Nous avons décidé d'aller porter plainte. Et Marion termine son message par « Bon courage et sois prudent, Baptiste. » Sois prudent, Baptiste. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ces deux mots disent de l'état de notre pays. Sois prudent. Parce que je suis médecin et parce qu'elle est infirmière. Les gens deviennent dingos, Ali. Enfin, certains étaient déjà très cons avant, mais là, c'est vraiment tendu. Bref, du coup, comme j'ai le micro, là, maintenant, je veux dire quelque chose. S'il y a des soignants et des soignantes qui m'écoutent, s'il y a des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, des médecins, des kinés, des sages-femmes, des dentistes, des assistantes sociales, des psychologues, des psychomotriciens, etc., je vous comprends et je vous soutiens. Et pour traverser moi-même ce que vous traversez en ce moment, je veux vous dire que vous n'êtes pas seul, que ces gens ont tort, quels qu'ils soient, et que vous avez raison. Le jour où ils auront besoin de vous, évidemment, ils le comprendront. En attendant, il faut bien le dire, le degré de bêtise de notre époque est stratosphérique et le thermomètre à conneries est savamment réchauffé par des politiques en recherche de suffrage. Mais ne les laissons pas nous salir, ne les laissons pas nous abîmer. Et je vais ajouter quelque chose, ça me paraît vraiment dément de devoir dire ça à l'antenne, mais voilà. Soyons fiers de ce que nous faisons pour les gens en cette période de pandémie. Par bien des aspects, vous les soignants, vous êtes le vivant symbole de ce qu'est ou doit être une civilisation digne de ce nom. Et si le tissu social est en train de se déchirer, ne laissez personne vous faire penser que vous n'êtes pas, d'une certaine façon, les meilleurs couturiers sur lesquels ce tissu social puisse compter.
et vous pouvez podcaster la chronique très émue de Baptiste Beaulieu sur l'appli France Inter. Dans un instant, quelques traitements contre la colopathie fonctionnelle. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Et en attendant, on écoute Alexia Grédy, Drôle d'idée.
Dis-toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux, aux oiseaux. Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée, comment nous sommes-nous retrouvés à cette terrasse de café. Quel drôle de jour, quel drôle d'idée de m'emmener chez toi danser quand ton cœur s'est accéléré. J'ai tout fait
Alexia Grédy, interprétée Drôle d'idée.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h52, comment prévenir les maux de ventre, certains maux de ventre, et comment les traiter le plus naturellement possible. Nous évoquions la colopathie fonctionnelle avant le disque. Quels sont les traitements proposés pour lutter contre cette colopathie fonctionnelle, professeur Permuter, quels sont les régimes alimentaires les plus appropriés?
Alors déjà, il faut comprendre que c'est une maladie chronique, donc... Moi, j'essaie d'éviter le plus possible des médicaments pour éviter de prendre de façon chronique des médicaments. Et si on peut, par des modifications alimentaires, aider les patients et les patientes, c'est très bien. Certains aliments qui ne sont pas digérés par nous-mêmes, mais par les bactéries qui sont en nous, peuvent aboutir à la production de gaz, de fermentation, d'un inconfort digestif. Et la suppression de ces aliments, qu'on appelle les aliments qui fermentent,
les FODMAP,
exactement, leur suppression peut aider. Dans les laitages, on supprime le lactose, donc le but n'est pas de faire toute la liste, mais voilà. Dans les céréales, on supprime les fructanes qui sont concomitants avec ceux qui comportent du gluten. On supprime certains légumes qui vont fermenter, on supprime les aliments qui sont riches en inuline, on supprime les fruits qui sont riches en pectine.
Vous pouvez donner des exemples, par exemple, sur les aliments riches en FODMAP? Ces sucres dits fermentescibles, peu absorbés par l'intestin.
Vous avez le lait, vous avez les fromages frais, vous avez le pain, les crêpes, les bagels.
Tout ce qui est bon, quoi.
Mais non, je suis pas d'accord, tout est bon. Vous avez les légumes secs, haricots blancs, rouges, noirs, pois chiches, vous avez les châtaignes.
Qu'est-ce qu'on mange dans ce cas-là, professeur Valmutin? Est-ce que c'est à vie? Est-ce que l'éviction des FODMAP, c'est à vie?
Je ne sais pas, ça dépend comment vous évoluez, ça dépend comment vous évoluez sur le plan psychique, ça dépend comment vous traitez la relation entre le cerveau et le tube digestif, des fois oui, des fois non. Vous pouvez prendre des pommes de terre, vous pouvez prendre du pain d'épaule, vous pouvez prendre des patates douces. Dans les légumes, vous allez plutôt supprimer les brocolis, les choux, les aubergines, vous allez plutôt privilégier les épinards, les haricots verts. Dans les fruits, vous éviterez plutôt la grenade, vous éviterez le poire, pomme, vous prendrez plutôt des raisins, des bananes, des
des fruits rouges. Donc non, on arrive à très bien manger. C'est vrai quand
il faut aller consulter un gastro-entérologue
ou un gastro-entérologue ou un nutritionniste ou une diététicienne ou des sites internet. Mais en tout cas, je pense qu'il faut pas faire ça tout seul. Il faut être accompagné pour les enlever, pour les réintroduire. Et tout ça, c'est pas dans c'est dans le cadre d'une prise en charge globale. Encore une fois, si on prend que le tube digestif sans le reconnecter au cerveau, je pense que ça peut ne pas marcher.
Et quel rôle peuvent jouer certaines thérapies, comme les thérapies comportementales et cognitives? Est-ce que c'est utile quand on souffre d'une colopathie fonctionnelle?
Absolument, vous pouvez, pour prendre les patients de façon globale, on peut leur proposer soit des séances d'hypnose, soit de la sophrologie, soit quand c'est des gros traumatismes, une psychothérapie, soit des séances de MDR. Donc, et ça, il y a des publications au top niveau qui montrent l'intérêt de faire une prise en charge mixte, à la fois digestive et de façon large, psychologique, cérébrale.
Caroline Gaillet, je rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute. Quelques plantes peut-être qui peuvent aider dans cet ensemble de conseils du professeur Perlmutter?
Oui, tout à fait. La boswellia, s'il y en avait qu'une à citer, ce serait celle-ci. Donc on trouve plutôt en gélule. C'est une, c'est la résine de l'encens, en fait, et qui a des propriétés anti-inflammatoires et qui marche très bien sur l'intestin. Après, effectivement, il faut reconnecter ce ventre et cette tête. Et donc, du coup, à nouveau, mon bourgeon de figuier, ça aide bien.
Le bourgeon de figuier. Merci beaucoup, professeur Gabriel Perlmutter, docteur Philippe Godeberge et Caroline Gaillet d'avoir participé à cette émission. Demain, des conseils pratiques pour lutter contre le stress et l'anxiété en cette période de pandémie. En compagnie des psychiatres David Gourion et Christophe André. J'aimerais dédier cette émission à un grand monsieur que nous avions reçu en 2018 dans Grand Bien vous fasse, Raphaël Esrail, grand résistant et ancien déporté au camp d'Auschwitz-Birkenau, est décédé samedi à Lannion à l'âge de 96 ans. Un grand humaniste, pourfendeur des falsificateurs de l'histoire qui prétendent par exemple que Pétain a sauvé des juifs. J'ai eu l'insigne honneur d'être son ami. Écoutons Raphaël Esrail le 31 janvier 2018 dans Grand Bien vous fasse.
C'était au camp. Pas au camp même, c'est lors d'un transport. Un transport terrible. Ce que nous appelons les trains de la mort. Entre le camp de Gross-Rosen et Dachau. Nous avons été enfermés dans des wagons à bestiaux et nous étions serrés comme des allumettes. Véritablement les uns contre les autres avec des gens qui étaient de nature différente, des juifs, des non-juifs, et par conséquent nous étions serrés. Nous nous sommes battus les uns les autres parce que les uns se mettaient, voulaient prendre de la place, etc. On s'est trouvé dans des conditions extraordinaires et pendant 7 jours, sans manger, sans boire, un tombeau roulant. Et dans ce tombeau roulant, où j'ai vu tellement les morts se mettre au milieu du wagon. Et j'ai dit, si un jour je reviens, je dois aussi, comme les autres, crier au monde ce qu'on a fait au monde, ce que des hommes sont capables de faire. Et c'est à ce moment-là, peut-être plus que jamais, que je l'ai fait. En réalité, pendant toute une période qui a été l'immédiate période, je me suis tué, mais ça fait plus de 25 ans, n'est-ce pas, que je suis... que je passe beaucoup de temps à dire, à expliquer ce que des hommes sont capables de faire à d'autres hommes. Et cette nécessité du témoignage est de son importance.
Le résistant Raphaël Esrail que nous avions reçu en 2018 dans Grand Bien vous fasse et qui vient de mourir à l'âge de 96 ans. Repose en paix, mon cher ami. Dans un instant, Nagui et sa bande originale.
Grand Bien vous fasse avec Extra Classe, le podcast à l'écoute de l'école et des enseignants. Chaque mercredi sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre appli de podcast favori.